Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulassou. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonsoir au sommaire. Cela fait 5 mois aujourd'hui que le président Paul-Henri Damiba donnait rendez-vous au Burkinabé pour faire le bilan de la reconquête du territoire national. Son discours à la nation est attendu dimanche. Pendant ce temps, des voix s'élèvent pour dénoncer la gestion de la transition. Parmi elles, Maître Guy Hervé Cam du mouvement Sens qui appelle à un changement de paradigme.
Près de 60 communes sont inaccessibles. Et ces 60 qui sont encore accessibles, il n'y a pas d'État. Les mairies ont fermé. L'expérience du régime du MPSR est la preuve par A plus B que ce n'est pas le changement du régime qui est la solution. C'est un changement de paradigme, de gouvernance qui est la solution.
Ce 1er septembre, le Burkina a célébré en différé la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme, une deuxième édition marquée par une cérémonie en présence du chef de l'État, Paul-Henri Damiba. À la une également, quelle collaboration entre la médecine traditionnelle et celle moderne. Le ministère de la Santé a réuni à cet effet des tradis praticiens autour d'un arbre à palabres. Et notre invité du jour est le journaliste et écrivain Siedi Kaba, spécialiste des groupes terroristes au Sahel. Il compare la situation dans la région à celle de l'Afghanistan. Quels sont les points de similitude? Interview à suivre après ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Le 1er avril dernier, le chef de l'État, Paul-Henri Damiba, donnait 5 mois au Burkinabé pour faire le bilan de la reconquête du territoire national. Eh bien, ce 1er septembre 2022, les 5 mois sont épuisés et déjà des voix s'élèvent pour dénoncer la gestion de la transition. Parmi elles, Maître Guy Hervé Cam du mouvement Sens. Face à la vie, face aux millions de nos compatriotes en détresse, ce gouvernement n'a pas craint de doubler son salaire, a dénoncé le coordonnateur national du mouvement Sens ce matin lors d'une conférence de presse. À l'heure du bilan, la situation n'est guère réjouissante, indique Guy Hervé Cam qui rappelle les nouvelles autorités à l'ordre.
On nous dit que la situation sécuritaire s'améliore, mais la réalité, nous constatons qu'elle s'empire de jour en jour. Voyez-vous, au 24 janvier 2022, très peu de communes étaient attaquées. Aucune commune n'était sous le contrôle des territoires. Aujourd'hui, près de 60 communes sont inaccessibles. Et ces 60 qui sont encore accessibles, il n'y a pas d'État. Les mairies ont fermé. L'expérience du régime du MPSR est la preuve par A plus B que ce n'est pas le changement du régime qui est la solution. C'est un changement de paradigme, de gouvernance qui est la solution.
Un changement de paradigme dans la gouvernance pour venir à bout du terrorisme. Ce n'est qu'à cette condition que tous les Burkinabés vont se sentir interpellés et vont s'unir pour faire front commun, estime Guy Hervé Cam, pour qui le président Paul-Henri Damiba doit reconnaître aussi ses échecs. Voici à quel discours les Burkinabés s'attendent pour s'engager selon Guy Hervé Cam. Il s'exprime au micro de Yaya Diomandé.
C'est le délai que le lieutenant-colonel Damiba avait dit pour faire le bilan. S'il vous dit aujourd'hui, les 7 mois ont été un échec, j'ai compris. Je propose un nouveau contrat au peuple burkinabé. J'en appelle à l'unité nationale, pas dans les discours, mais dans les faits. J'oublie les questions qui divisent. Nous ferons la réconciliation quand nous aurons le contrôle de l'ensemble des 274 000 kilomètres de notre pays. J'ai compris que je ne peux pas demander au peuple de serrer la ceinture quand j'élargis la mienne. S'il nous dit qu'il a compris que plus de près de 3 millions de compatriotes ne vont pas avoir à manger si la situation continue comme telle et qu'il veut bâtir avec tous les Burkinabés parce qu'il a pris conscience qu'il ne peut pas bâtir seul, je peux vous assurer que personne ne demandera son départ. Tout le monde sera derrière lui parce que c'est cela la condition du changement. C'est pour cela que nous nous battons.
C'était Maître Guy Hervé Cam sur ses attentes vis-à-vis du chef de l'État pour le bilan du président Paul-Henri Damiba lui-même. Il faudra attendre jusqu'à dimanche prochain. Pour le moment, comme annoncé en titre, Paul-Henri Damiba a présidé ce matin la commémoration nationale de la journée du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. La cérémonie a eu lieu au monument aux héros nationaux à Ouagadougou à l'international. Cette journée est célébrée chaque 21 août depuis 2017, mais le Burkina Faso est à sa deuxième édition, une journée qui vise à soutenir les victimes survivantes du terrorisme, promouvoir et protéger le plein exercice de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales. On fait le point de cette cérémonie avec nos reporters Faouzia Zongo et Moumouni Tamboura.
Je voudrais vous demander une minute d'applaudissement en guise de soutien à leurs familles et d'encouragement par leur combat.
Les morts sont aussi dans l'arbre qui frémit et sont dans le bois qui gémit, selon Birago Diop. En témoigne la tenue d'une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, la prise en charge des victimes du terrorisme, un droit pour les victimes et un devoir pour les communautés est le thème de cette édition. Selon le ministre de la Justice, Maître Barthélémy Kéré, le thème est interpellateur.
L'objectif de ce thème, c'est d'interpeller l'ensemble des acteurs sur leur devoir de solidarité envers les victimes du terrorisme comme un levier pour le renforcement de leur force de résilience et le raffermissement de leur fibre patriotique dans la perspective de la consolidation des efforts du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme et de renforcement de la cohésion sociale.
Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Cette journée, bien que les objectifs visent à rendre hommage à tous ces braves hommes, civils ou militaires tombés sur le champ de bataille, elle, d'autant plus adressée aux veuves, aux orphelins, les personnes déplacées internes, les parents victimes directes et indirectes qui ne font que croître dans nos communautés, a laissé entendre le représentant des parents des victimes, Pascal Lankwande. Pour venir à bout à une assistance de toutes ces personnes victimes de terrorisme, il interpelle les autorités à trouver des palliatives afin que la situation ne prenne d'autres envergures.
Nous ne sommes pas en mesure de vous dire ce qui se passe car il faut vivre cette situation pour la comprendre. Mais ce que nous savons, c'est que cet aspect mental des victimes risque de créer à long terme un grand problème social, pourrait induire un terrorisme généré par notre manque d'anticipation et d'introspection des maux en germination. Toutes ces victimes de ce nouveau phénomène de notre société souhaitent vivre dignement et non dans l'assistance éternelle des tierces personnes.
Cette célébration devrait permettre aux parents et survivants des attaques terroristes à une renaissance des citoyens burkinabés certes, mais l'aide à ces victimes est une responsabilité qui incombe à l'État. L'acte terroriste rend plus vulnérables les victimes et l'État a le devoir de leur venir en aide, en témoignent ses propos d'une victime des centres du terrorisme.
Après le décès de mon époux, pratiquement nous les veuves, c'est en fait des belles familles. Il n'y a pas longtemps, toujours rien. Moi pratiquement, mon mari est décédé, ça fait 3 ans. Depuis, il n'a pas gain de cause.
Le représentant des familles des victimes, Pascal Lankwande, invite à cet effet à un recadrage des indemnités allouées aux soldats tombés sur le champ de bataille. Ils ont souligné par ailleurs le problème de la prise en compte des épouses de victimes vivant en concubinage, dont la plupart est sans emploi. Aussi, il insiste sur la nécessité d'un soutien psychologique et social et la réhabilitation de toutes ces victimes à court, moyen et long terme.
D'aucune indemnité, toutes catégories confondues comme si ces derniers n'étaient pas des Burkinabés.
Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2022. Rappelez-vous, il y a 13 ans, en 2009, près de 300 mm d'eau étaient tombés en 10 heures, créant de nombreux dégâts humains et matériels. 46 personnes ont péri suite à des inondations au Burkina. Au moins 150 000 personnes ont été alors sinistrées, une date qui fait ressurgir de mauvais souvenirs et des craintes d'un remake en ce début de mois de septembre. Cependant, la météo rassure. De la pluie, il y en aura certes, selon Issoufou Ouédraogo, ingénieur prévisionniste à l'Agence nationale de la météorologie, qui rassure que ce 1er septembre ne ressemblera pas à celui de 2009.
Selon nos prévisions, c'est juste la partie ouest et sud-ouest du Burkina qui seront intéressés par des activités pluvieuses et orageuses. Les autres localités pourraient noter des pluies faibles ou bien des averses de pluie, mais qui ne seront pas vraiment de grande ampleur. Le 10 septembre, il y a d'autres événements pluvieux qui pourraient intéresser cette fois-ci la majeure partie du pays. Et le 3 septembre aussi, il y a des événements pluvieux qui pourraient intervenir. Mais l'envergure du 1er septembre 2009, selon nous et les indications ici, ça ne va pas atteindre cette envergure-là.
Voilà qui devrait rassurer tout le monde. Issoufou Ouédraogo, ingénieur prévisionniste, a été interrogé par Ibrahim Niaouné et Charles Da. Et pour s'assurer de l'effectivité de l'arrêt des activités d'orpaillage en cette saison pluvieuse dans le Ioba, le haut commissaire s'est rendu lundi dernier sur le site d'orpaillage artisanal de Menmer dans la commune de Koper, notant que le 20 août dernier, un éboulement a causé la mort d'un artisan minier sur ce même site. Synthèse Waboué Bakouin.
Nous sommes là dès Bruno, le site là, on arrête du juin en octobre.
De juin en octobre.
Voilà, parce que quand on va, il pleut comme ça, ça peut envoyer des accidents dans le trou.
Ici, ce sont les artisans miniers qui répondent aux questions de Madame le haut commissaire du Yoba. En effet, du 1er juin au 31 octobre, l'activité d'orpaillage est interdite sur tous les sites d'orpaillage du sud-ouest. C'est en vertu de cet arrêté d'interdiction que Madame Adenyo Sermé Bernadette est en suivi contrôle sur le site de Memer 2 dans la commune de Koper ce 29 août.
Aujourd'hui, nous pensons que le message est passé, mais nous comptons aussi sur le responsable du site pour nous aider à ce que cette sensibilisation puisse se poursuivre.
Elle est accompagnée de Daouda Maïga, le responsable de l'ANEMAS, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées, l'organe chargé d'encadrer les artisans miniers.
Le site de Memer fait l'objet d'une troisième sortie et parmi les trois sorties, il y a eu une sortie qui nous a permis d'appréhender quelques artisans miniers qui ne respectaient pas la mesure.
Malheureusement, cela n'a pas empêché qu'un artisan minier décède lors d'un éboulement dans la nuit du 20 août dernier sur ce même site. Pour Madame le haut commissaire, cet incident doit davantage interpeller tous les acteurs.
Même pendant les périodes où c'est autorisé, il y a des accidents qui peuvent survenir, mais nous disons que dans cette période de saison des pluies, le risque est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé.
Notons que la violation de l'arrêté d'interdiction de l'activité d'orpaillage en saison pluvieuse est passible de peine d'emprisonnement et d'amende allant de 5 à 25 millions de francs. Dano Waboué Bakouin, Radio Omega.
Suite de l'actualité nationale, les premiers pèlerins burkinabés sont revenus de la Mecque le 20 juillet dernier. Plus d'un mois après, l'heure est au bilan. Le comité d'organisation du Hajj 2022 tire un bilan satisfaisant malgré les péripéties rencontrées. On déplore 3 décès. Le comité national de suivi du pèlerinage s'est aussi exprimé sur la polémique née de la subvention de l'État. Marina Ouédraogo, Rabiatou Kongo et Bernabé Cabré pour des précisions.
3773 pèlerins ont accompli cette année le Hajj, cinquième pilier de l'islam. Un pèlerinage intervenu après 2 ans de suspension en raison de la pandémie de COVID. L'heure est venue pour le comité national de suivi de faire le bilan. Les pèlerins burkinabés n'ont pas rencontré de problèmes majeurs en Terre Sainte. Mamadou Sawadgo est le secrétaire permanent du pèlerinage.
Nous pouvons estimer que le bilan de l'organisation du Hajj est globalement satisfaisant. Tous les défis ayant été relevés grâce aux efforts conjugués des organisateurs et la sollicitude du gouvernement. Pour cette édition, nous avons bénéficié d'apports multiformes des différents acteurs intervenant dans le Hajj. Il s'agit notamment de la gratuité des vaccins, des tests PCR et des masques offerts justement par le ministère chargé de la Santé. Le maintien, la location de 3 ambulances pour des situations d'évacuation par le comité. Également, le respect des programmes de vol aller et retour par le transporteur aérien.
Malheureusement, 3 pèlerins burkinabés ont perdu la vie des suites de maladies. Un autre est toujours hospitalisé en Arabie Saoudite. À cela s'ajoutent d'autres difficultés rencontrées par le comité national de suivi. Mamadou Sawadgo, secrétaire permanent du pèlerinage.
Cette édition a connu aussi des difficultés et des insuffisances, dont les plus frappantes sont l'annonce tardive des programmes de vol dus à la signature tardive du contrat avec le transporteur aérien, la signature tardive des contrats de location de siège du comité aussi bien à Médine qu'à la Mecque, l'absence d'un représentant de l'avionneur à Djeddah facilitait l'embarquement des pèlerins et des bagages, et surtout l'eau bénite, le Zamzam. J'ai l'absence de synergie entre les différents acteurs qui ont été fortement impliqués.
Afin de surmonter ces difficultés, le comité d'organisation envisage à l'avenir sensibiliser plus les pèlerins sur la discipline et les pratiques interdites, fixer une date butoir pour la sélection du transporteur aérien et fixer le coût du Hajj. Cette année, l'État a accompagné les pèlerins à travers une subvention de 800 millions de francs CFA. Un coup de main que l'État donne chaque année pour faciliter certains besoins.
Et collaboration de la médecine traditionnelle et moderne dans l'offre de santé au Burkina, le ministère de la Santé a échangé avec les tradis praticiens mercredi à Zignaré dans la région du plateau central. Moumouni Yaro pour plus de détails.
Cette rencontre avec les acteurs de la chaîne de la médecine traditionnelle entre dans le cadre de la 11e édition de l'Arbre à Palabre de la médecine traditionnelle. Elle a eu pour objectif de recueillir leurs soucis et leurs doléances. Docteur Salif Sankara, directeur général de l'offre de soins au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
La présente concertation voulue par le ministre de la Santé, acceptée par l'État des praticiens, est une opportunité de débat direct autour des préoccupations de l'heure. Nos attentes principales, c'est de pouvoir aplanir les difficultés qui existent dans le développement de la médecine traditionnelle et pouvoir promouvoir ce pan de la santé qui est un aspect important de l'offre de soins pour les populations.
C'est le genre de rencontre qui permet d'établir les limites de la médecine traditionnelle et moderne et ainsi fortifier leur corrélation. Seydou Zungrana, président des tradis praticiens de Zignaré.
La rencontre nous a apporté beaucoup de connaissances pour la santé au Burkina Faso. Les médecins ont su comment nous travaillons et vice-versa. Ça a permis de savoir les limites de chaque domaine. Parfois, quelqu'un au village connaît beaucoup de potions pour soigner, mais les gens ne savent pas. C'est une difficulté pour nous. Sinon, il n'y a pas de maladie sans médicaments. Si tu sais où se trouve le traitement et tu peux apprendre, s'il plaît à Dieu, tu auras la guérison.
La 11e édition de l'Arbre à Palabre de la médecine traditionnelle a réuni le ministère de la Santé et les tradis praticiens, les producteurs, les praticiens de médecine alternative et les fournisseurs de matériel et consommables de médecine pharmacopée et traditionnelle du Burkina.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Seydik Abba, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain et votre dernière parution est titrée « Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous », certainement parce que vous y voyez des similitudes, lesquelles donc ?
La comparaison peut se faire à trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'objectif initial. Lorsque les Américains interviennent en 2001 en Afghanistan, leur projet était d'évincer les talibans du pouvoir et aussi d'empêcher que l'Afghanistan devienne un sanctuaire de groupes terroristes. 20 ans après, les Américains sont repartis sans avoir atteint cet objectif finalement, puisque les talibans sont revenus au pouvoir en 2021. On peut faire la même comparaison avec la France. Lorsque la France lance Barkhane en 2014 après Serval, le projet de la France était d'empêcher l'extension du terrorisme au Sahel. Et aujourd'hui, 9 ans après, le terrorisme s'est exporté du Mali vers le Niger, vers le Burkina Faso. Il s'est même exporté dans les pays du Golfe de Guinée. Il y a eu une extension territoriale du terrorisme au Sahel qui justifie un échec français. Le deuxième niveau de comparaison, c'est au niveau de l'échec de l'aide internationale. Lorsque les Américains sont arrivés en Afghanistan en 2001, les robinets de l'aide internationale, les vannes se sont ouvertes et des milliards de dollars ont été investis en Afghanistan sans qu'on ait véritablement un impact sur la vie des populations. Au Sahel, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est près de 35 milliards de dollars qui ont été investis et vous ne trouverez pas l'impact que cette aide a eu véritablement dans la vie des populations. Troisième niveau de comparaison, c'est aussi l'agenda des groupes djihadistes. Les groupes djihadistes en Afghanistan, à la différence de l'État islamique, ne cherchez pas à aller attaquer Washington, Bruxelles, etc. Eux, ils avaient un agenda local. Et au Sahel aussi, les groupes djihadistes, à part l'État islamique au Grand Sahara, c'est le Sahel, c'est l'Afrique de l'Ouest.
Comme les États-Unis en Afghanistan, la France a été contrainte de quitter le Mali après 9 ans de lutte contre le terrorisme. À l'heure du bilan, on est loin de l'enthousiasme qui avait accompagné la fin de l'opération Serval. Pour vous, s'agit-il d'un échec et comment cela pourrait-il s'expliquer ?
Il faut distinguer deux temps forts dans l'intervention militaire française au Sahel. Il y a un premier temps qui peut se résumer à l'opération Serval. C'était un mandat très précis. Il s'agissait d'arrêter la progression de la colonne des djihadistes qui est partie du nord à l'assaut du sud, peut-être même jusqu'à Bamako, et puis de libérer les grandes villes du nord Mali qui étaient sous le joug de groupes djihadistes. Et cette dimension de Serval a été parfaitement remplie. Maintenant, le second temps, sans doute porté par l'ivresse du succès de Serval, la France avait décidé de lancer l'opération Barkhane en 2014, dont le mandat était de lutter contre le terrorisme sur l'ensemble du Sahel, c'est-à-dire un territoire de 2,5 millions de kilomètres carrés, 5 fois plus vaste que la France avec seulement 5 000 hommes. Ce pari-là était un pari risqué et à l'heure du bilan, on s'aperçoit que justement, on n'a pas obtenu les résultats qui étaient annoncés. On a assisté à des phénomènes qu'on ne connaissait pas, l'endogénisation. C'est-à-dire qu'au début, lorsque le terrorisme a commencé au Sahel, à la fois les dirigeants des Katiba et même certains fantassins venaient du Maghreb. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les locaux, ce sont les populations locales qui ont rejoint le groupe djihadiste. Maintenant, cet échec-là, il peut s'expliquer. Parce que, à mon avis, le choix a été celui du tout militaire et sécuritaire. On a occulté toutes les autres dimensions, la dimension développement, la dimension gouvernance, la dimension présence de l'État. Tout cela n'a pas été intégré.
Barkhane s'installe donc à Niamey, dans votre pays, le Niger, avec toujours la même promesse. Ce qui n'a pas marché au Mali, pourrait-il marcher à partir du Niger, à votre avis ?
Il me semble que les Français ont tiré les leçons de l'échec, puisque au Niger, la démarche va être sur le plan opérationnel un partenariat de combat, c'est-à-dire que les militaires français vont combattre aux côtés de leurs homologues nigériens.
Selon le patron de Barkhane 2, les militaires français vont être placés sous le commandement d'un général nigérien. Ce n'était pas arrivé au Mali. Ensuite, il y a une deuxième démarche, c'est la philosophie du être présent sans être visible. L'armée française ne va pas avoir une présence aussi importante qu'elle avait eue au Mali où elle avait plusieurs casernes. C'est ce qui a amené sans doute même l'incompréhension au niveau des opinions publiques. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait autant de militaires français et avec peu de résultats. Et le principe de l'accompagnement à la demande, ce n'est pas la France visiblement dans cette deuxième phase qui va dicter aux pays africains ce qu'elle peut leur apporter. Et puis il y a un quatrième élément nouveau, la fourniture des moyens, notamment les moyens aériens, ce qui manque aujourd'hui aux armées africaines.
Et une dernière question, Seydi Kaba, plus centré sur le Burkina, qui a fait l'option de dialoguer avec les groupes terroristes, dialoguer et non négocier selon le gouvernement. C'est une bonne option selon vous?
Il faut avoir la possibilité de discuter avec ceux qui sont disposés à discuter. Connaître quelles sont leurs revendications et voir comment on peut satisfaire leurs revendications. Discuter ne veut pas dire renoncer à combattre les groupes djihadistes. À partir de l'expérience que nous avons faite au Niger dans la région de Difa avec Boko Haram, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été embarqués de force dans les groupes djihadistes. Et lorsque les canaux de discussion ont été ouverts et qu'on a commencé à discuter avec eux, beaucoup sont revenus. Beaucoup n'ont pas eu besoin de poser de conditions. Et d'ailleurs, dans des pays qui ont connu les mêmes difficultés que nous, comme l'Algérie, un accord de concorde nationale a fini par être signé. Les Américains ont fait 18 ans, mais ils ont fini par s'asseoir à la table des négociations avec les talibans pour discuter. Souvent, d'ailleurs, nos États y sont favorables, mais les gouvernements en place disent que nos partenaires ne veulent pas des discussions. C'est pour cette raison. Or, dans le livre même, j'explique que les partenaires sont d'accord pour discuter lorsqu'il s'agit de libérer leurs ressortissants.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tiendre-Bogo. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.